France Info.
20h-21h, France Info, les informés, Augustin Arrivé.
Emmanuel Macron ne figure plus dans la liste des 50 personnalités préférées des Français du journal du dimanche. Vous me direz, c'est sans doute le cadet de ses soucis, mais qu'est-ce que ça dit de l'ambiance politique actuelle? Le seul politicien à y figurer toujours, c'est Nicolas Hulot, 43e place, l'homme qui a claqué la porte du gouvernement en disant ses quatre vérités à l'exécutif, lui qui jugeait l'Élysée livré au lobby en tout genre. Dans ce contexte, comment recevoir les paroles du ministre des Comptes publics qui appelle aujourd'hui au civisme fiscal de nos entreprises? Avec nous pour parler de tout ça, Isabelle de Golemin, bonsoir. Rédactrice en chef du journal La Croix, vous mettiez en une ce week-end un dossier sur les événements positifs de l'année écoulée. Il y en a eu, oui, oui. Vous en sélectionnerez un pour nous tout à l'heure. À vos côtés, Fabien Tasté, bonsoir.
Bonsoir.
Vous présidez l'AATF, l'Association des administrateurs territoriaux de France, mieux tisser des liens avec les territoires. Voilà l'une des missions sans doute de l'exécutif pour l'année qui vient. Également à la table des informés, Hervé Gautreau, bonsoir à vous.
Bonsoir Augustin.
Rédacteur en chef adjoint au service économie et social de France Télévisions. Et puis Patricia Chaplotte, bonsoir.
Bonsoir.
Présidente d'Albera Conseil et du club Génération Femmes d'Influence. Et malgré ça, aucune femme dans le top 10 des personnalités préférées des Français dévoilées ce matin, c'est à n'y rien comprendre. Merci d'être avec nous, bienvenue, nous sommes ensemble jusqu'à 21h sur France Info. La suppression de l'ISF, qui était un impôt absurde, doit aller de pair avec un certain civisme fiscal. Citation du ministre des Comptes publics, Gérald Darmanin, dans le journal du dimanche aujourd'hui. Il continue en précisant sa pensée. Les dirigeants d'entreprises cotées ou dont l'État est actionnaire doivent impérativement être résidents fiscaux français. Emmanuel Macron avait dit la même chose au début du mois. Et le président du MEDEF, Geoffroy Roux de Bézieux, avait répondu ceci, c'était sur France Info.
Il n'y a pas de débat. Oui, les patrons doivent payer leurs impôts en France. Nous, les patrons français, on ne demande pas un paradis fiscal en France. Il est juste de payer l'impôt. Il est juste de payer un juste impôt. On demande simplement à ce que la fiscalité en France, pour les entreprises d'ailleurs comme pour les ménages, soit comparable à nos voisins. Moi, je veux pas être Singapour. Je veux pas être l'Irlande. On est un pays de 66 millions d'habitants. C'est normal qu'on paye pour la justice, qu'on paye pour la défense, qu'on paye pour la police. Simplement, le problème, c'est un, il faut que ça soit clair, deux, il faut que ça soit compétitif, et trois, il faut que ça soit stable.
Il n'y a pas de débat, dit Geoffroy Roux de Bézieux, mais on dirait bien qu'il y a quand même un mais. Est-ce qu'on peut seulement, Isabelle de Golemin, voilà, demander à être civique, et puis espérer que ce soit fait?
Oui, c'est pas quelque chose qui se fait de manière naturelle, parce que, en fait, et on se demande bien ce que M. Darmanin va pouvoir faire concrètement pour lutter contre ça, puisque vous savez que le problème, c'est qu'il y a aujourd'hui des patrons français qui habitent 6 mois ailleurs qu'en France, de façon à se faire déclarer fiscalement ailleurs qu'en France, notamment en Suisse, pour un certain nombre d'entre eux.
C'est ça la règle, en
donc
fait.
C'est, enfin, la règle. En tout cas, il y a un certain nombre de patrons français.
Non, la règle, c'est à partir de 6 mois hors de France, on a le droit de, évidemment, ce n'est pas la règle des patrons français.
Alors, qu'est-ce que le gouvernement peut faire comme, contre ça? Alors, soit revoir les conventions nationales qui lient la France à la Suisse, la France à la Belgique, etc., ce qui est quand même assez compliqué, soit, et c'est une seconde solution qui, à mon avis, est plus fructueuse, passer au niveau européen. C'est vraiment, et c'est là qu'on voit l'intérêt de l'Europe, c'est vraiment au niveau européen qu'on peut sans doute essayer d'empêcher l'évasion fiscale. Et d'ailleurs, il y a une nouvelle loi qui va entrer en vigueur au niveau européen à partir de janvier de cette année, qui va permettre à l'État français, enfin aux États, d'imposer les bénéfices d'entreprises qui passent dans d'autres pays où, effectivement, elles sont moins imposées. Donc, voilà, ça commence à venir au niveau européen. Il commence à y avoir une harmonisation et une possibilité de lutter contre cette fraude fiscale.
Fabien Tasté, je vous voyais hocher la tête. Vous êtes d'accord avec ça? C'est l'Europe qui va permettre de lutter contre cette fraude fiscale?
Oui, je suis d'accord. Mais moi, pour tout vous dire, j'ai trouvé cette interview du ministre un peu curieuse. D'abord, très technique. Hein. C'est une interview qui est centrée sur le prélèvement à la source, qui à mon avis est une bonne réforme. On aura sans doute des couacs, des difficultés dans la mise en œuvre, mais c'est plutôt une bonne réforme. Ce qu'il faudra observer surtout, c'est les conclusions que le ministre en tire sur la réforme de son administration. Parce que je crois que dans cette interview, il explique que tout euro dépensé doit obligatoirement amener des réformes. J'ai envie de dire, tout projet de réforme fiscale qui concerne les Françaises et les Français doit aussi conduire à ce que les administrations qui mettent en œuvre ces réformes elle-même évolue. Et je crois qu'il a, il a pas mal de pain sur la planche avec un certain nombre de sujets, de doublons dans son
Isabelle
administration.
Isabelle de Golemin se demandait quels pouvaient être ses leviers pour effectivement lutter contre la fraude fiscale et puis imposer ce civisme fiscal. Hervé Gauthier, quels peuvent être les leviers du gouvernement? Est-ce qu'il y a autre chose qu'une carotte? Est-ce qu'il y a un bâton là?
Ben, c'est pas très clair hein, sur ce qu'on peut faire. Moi, je suis pas certain du tout que l'Europe puisse servir à quelque chose. L'Europe qui n'arrive déjà pas à empêcher d'avoir en son sein des pays qui sont déjà des paradis fiscaux, Malte, le Luxembourg, les Pays-Bas, l'Irlande. Il y a des c'est pas de la fraude fiscale hein, il faut quand même bien le préciser hein, c'est parfaitement légal, mais on sait par exemple que Patrick Drahi
fiscale,
voilà, le Patrick Drahi, le patron d'Altice, est installé en Suisse et paye ses impôts là-bas, pareil pour Gérard Wertheimer, l'actionnaire de Chanel, pareil pour Pierre Castel, enfin il y a un certain nombre de patrons, de cadres de grandes entreprises ou d'actionnaires qui profitent déjà de ça, et c'est complètement légal. En revanche, donc je vois pas très bien ce que l'Europe... Ou alors l'Europe va imposer quelque chose, mais ça n'empêchera pas qu'il faudra quand même dénoncer les 159 accords bilatéraux. Donc ça va être un pataquès juridique terrible. De là à en arriver à faire la méthode à l'américaine qui consiste à dire si vous êtes citoyen américain, ou là en l'occurrence citoyen français, vous devez payer les impôts dans le pays où vous êtes et dans votre pays d'origine, dans le pays dont vous êtes citoyen, je pense qu'on n'en est pas là et ça va être très très difficile à imposer. En tout cas, moi ce que je remarque, c'est que Gérald Darmanin, il n'avance pas beaucoup de pistes, il se contente finalement de renouveler la promesse qui avait été faite par Emmanuel Macron le 10 décembre.
Patricia Chaplot, il hausse le ton un petit peu plus lorsqu'il s'agit des GAFA que des entreprises françaises, évidemment, parce que...
Je pense que c'est un peu plus simple, enfin un peu plus simple, entre guillemets, d'aller expliquer qu'il faut que les GAFA payent des impôts en
Ces
France.
Ces grosses entreprises de l'informatique.
Les grosses, voilà. Mais je pense que c'est très compliqué d'imposer de payer les impôts en France. D'abord, ça ne concerne pas que les patrons, les dirigeants, les CEO, ça concerne aussi beaucoup de directions. Vous avez des entreprises qui vont installer la direction financière, par exemple, à Londres. Parce que, on prend son Eurostar, on peut même faire l'aller-retour quasiment tous les jours, habiter à Londres et donc ne pas payer les impôts en France. Ce que je veux dire par là, c'est qu'aujourd'hui, on a aussi un problème, c'est que les dirigeants ne sont pas tous français. On a un problème pour attirer les talents dans nos entreprises françaises. Et donc si on veut attirer les talents, si on veut aller chercher le Canadien qui dirige Air France et qu'on lui explique, vous allez être limité, vous allez payer... La fiscalité française est tellement lourde. Moi, j'ai des cabinets de chasse de tête qui sont mes clients. On voit bien que la France n'est pas un pays qui attire les talents. Donc, si soit on va augmenter les salaires considérablement, ça va coûter plus cher aux entreprises, soit effectivement, on essaye, et je pense que l'État peut pas faire grand-chose, d'installer telle ou telle direction ou telle, dans un pays où la fiscalité est moindre, parce qu'autrement, les talents ne viendront pas travailler dans les entreprises
dans
françaises.
Deux minutes,
donc, c'est
on
pas
va,
simple.
On va parler d'autres structures avec parfois des problèmes de trésorerie. Ce sont les associations. Ce sera juste après un rappel des informations majeures de ce dimanche, 20h10, sur France Info, Julie Smul.
148 000 forces de l'ordre déployées dans toute la France demain pour la nuit du réveillon. C'est 8 000 de plus que l'année dernière. Mesures de sécurité renforcées notamment à Paris, à Bordeaux et à Nice. Des villes où les gilets jaunes ont prévu de se mobiliser. Dans la capitale, un périmètre de protection sera mis en place autour des Champs-Élysées à partir de 16h. Un détenu de la prison de Fresnes en cavale ce soir. Il s'est évadé cet après-midi en escaladant les murs d'enceinte. Les surveillants ont tiré à plusieurs reprises. Le détenu de 29 ans, incarcéré pour des vols avec effraction, était particulièrement surveillé pour avoir déjà tenté dans le passé de s'évader d'un tribunal. Le corps d'un randonneur porté disparu depuis vendredi, retrouvé aujourd'hui en Haute-Savoie. Un homme de 64 ans parti seul en ski sur un sommet des Alpes. Le ministre de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer, condamne ce soir les dégradations dans un collège de Tulle, en Corrèze. Jeudi dernier, des jeunes entrent dans le collège Victor Hugo. Ils cassent des portes et arrachent le matériel informatique. Une scène filmée est postée sur les réseaux sociaux. Les dégâts frôlent les 50 000 euros. Jean-Michel Blanquer assure que la rentrée aura lieu comme prévu le 7 janvier prochain. Et puis la France en manque de dons de sang. L'EFS, l'établissement français du sang, appelle les donneurs à faire un cadeau précieux et utile en cette fin d'année. Dans plusieurs régions, les stocks sont au plus bas.
France Info.
20h, 21h, les informés.
Augustin Arrivé.
Mais il n'y a pas que les stocks de sang. La Ligue contre le cancer a reçu près de 17% de dons d'argent en moins cette année, moins 12% pour ATD Quart Monde. Le Téléthon a limité la casse au début du mois, mais tout de même 8% de promesses de dons en moins. C'est aussi un temps de vache maigre pour le denier du culte, l'Église catholique en espérance rattraper dans les derniers jours de 2018. Écoutez Philippe Guyard, c'est l'économe diocésain de Créteil. Il était l'invité de France Info tout à l'heure.
Beaucoup des dons sont faits en fait sur la fin de l'année. C'est une habitude des donateurs de manière générale d'attendre d'y voir un petit peu clair sur ce qu'il leur reste en fin d'année. Donc beaucoup des dons sont faits en novembre et en décembre. Et c'est clair que l'ambiance générale du pays, avec un moral plutôt morose, incite plutôt à la prudence et au repli sur soi qu'aux dons généreux.
Ambiance morose, Isabelle de Golemin, c'est aussi ce que vous ressentez, ce qui pourrait expliquer ces baisses de dons?
Oui, alors pour le denier du culte, je pense qu'il y a aussi un autre phénomène qui est la crise de la pédophilie, qui a atteint l'image de l'Église catholique, qui a sans doute aussi compté parce qu'il y a un certain nombre de catholiques qui ne veulent plus payer leur denier du culte. Mais c'est vrai que ce qui est un petit peu décevant, je trouve, dans toutes ces histoires d'associations qui découvrent cette année qu'elles ont moins de dons, c'est que finalement, on s'aperçoit qu'il y avait une partie de la philanthropie qui était uniquement une possibilité de défiscalisation par rapport à l'ISF. Donc voilà, donc ça c'est bon,
c'est la suppression
un peu naïve,
de l'ISF qui a
mais
déclenché...
c'est vrai que voilà, on découvre que finalement la philanthropie avait quand même des raisons fiscales très importantes. Alors je crois que maintenant on est en train d'essayer de trouver de nouveaux systèmes fiscaux, et puis de revoir aussi les modes de taxation de l'héritage qui pourraient permettre aux gens vraiment très riches de faire des legs à des associations de manière plus simple qu'aujourd'hui, parce que aujourd'hui vous devez quand même garder une certaine part de votre héritage pour vos enfants. Donc ça pourrait changer, mais peut-être qu'il y a aussi à redécouvrir finalement qu'est-ce que la philanthropie pour les Église, par exemple, ce que font maintenant beaucoup d'églises qui voient leur denier, donc leur ressources baisser, c'est qu'elles disent, faut pas simplement dire aux gens, vous payez, mais leur dire, vous payez pourquoi ? Pour une création d'une maison pour les immigrés, création de quelque chose qui...
Parce que c'est ça qui freine, c'est de ne pas savoir pourquoi est-ce qu'on va donner de l'argent.
En tout cas, dans les enquêtes sur la générosité, on montre bien qu'aujourd'hui, les gens, ils veulent donner pour quelque chose.
Un projet,
et puis qu'on les tienne au courant de ce projet, de voir comment c'est financé, de voir comment c'est suivi. Ils vont plus donner de manière aveugle. Et je pense que pour l'Église, c'est très vrai.
Pas bien testé. Vous êtes à la tête d'une association. Je ne sais pas quel est le financement. C'est pas la même chose.
On a des dons, mais on a des adhérents. Je les remercie de leur générosité, d'ailleurs. Non, je suis d'accord avec ce qui vient d'être dit. Je pense que après, il faut aussi regarder la société telle qu'elle est. C'est une société qui est plus égoïste, où les gens s'engagent moins pour des causes collectives. Je pense qu'il faut regarder les choses avec lucidité. Et je suis d'accord avec ce qui vient d'être dit. Je pense que nos concitoyens, ils s'engagent moins aujourd'hui sur des causes que sur des projets. Et c'est peut-être une perspective d'évolution aussi pour les associations. Aujourd'hui, il y a quelque chose qui marche bien, c'est le financement participatif, par exemple. Vous allez sur une plateforme et puis vous sollicitez des contributions, des dons, pas autour d'une cause générale, incantatoire, mais autour de projets précis. Bon, c'est peut-être une perspective d'évolution, parce que je pense que dans cette affaire, il faut aussi que les associations réfléchissent à leur propre évolution, se remettent un peu en cause. Il faut peut-être qu'elles se professionnalisent davantage, qu'elles aient des pistes d'optimisation, qu'elles mutualisent des ressources entre elles, et puis qu'elles aillent vers de nouveaux modes de sollicitation des particuliers, donc peut-être le financement participatif.
Oui. Hervé Gotchaud, je ne sais pas si on a du recul déjà sur ce financement participatif. Est-ce que c'est un système pérenne? C'est un peu au cas par cas. En même temps.
Oui, c'est au cas par cas, mais c'est vrai effectivement que les ONG aujourd'hui se font financer essentiellement sur des projets. C'est vrai auprès du grand public, c'est vrai aussi auprès des financements institutionnels, des agences de l'ONU par exemple, pour les plus grosses. Et puis effectivement, il y a le financement participatif, il y a le fundraising, il y a des nouvelles manières aussi à inventer pour collecter. Le microdon, par exemple, c'est quelque chose de très intéressant. Vous savez, où vous faites l'arrondi sur salaire, ou l'arrondi sur votre facture quand vous payez au supermarché. Ça permet de lever de l'argent de manière finalement assez indolore, assez facile, qui est très inscrite dans la vie. Votre salaire, votre facture à la caisse, ça marche plutôt pas mal. C'est des pistes, à mon avis, à explorer. Et je pense qu'effectivement, il faut que les associations se réinventent à la lueur, effectivement, de ce nouveau rapport que les gens entretiennent aux dons et à la solidarité. C'est vrai que cette année, on était dans une période de grand doute sur le pouvoir d'achat, malgré des chiffres qui pourtant disaient le contraire. Mais les gens étaient très très inquiets. On a parlé aussi du prélèvement à la source, même si ça changeait rien.
On peut aussi se rappeler d'un événement de e-sport qui a eu lieu en novembre, Z-Event, qui a permis de récolter 1 million d'euros pour MSF. Alors là, c'est pas tellement un nouveau moyen de récolte, c'est plutôt un nouveau public qu'on appelle à qui on demande de faire des dons. Il y a aussi un phénomène, c'est que en même temps qu'il y a ces baisses de dons, il y a aussi une baisse des dépenses publiques et ça crée une sorte de double étranglement. Patricia Chaplotte, pour les associations, à la fois moins de dons et puis peut-être moins de financement de l'État.
Ouais. Non, mais je crois que le monde associatif doit aussi se réformer. On a des listes d'associations qui sont impressionnantes. D'ailleurs, normalement, elles sont censées être gérées. Là, la réforme... Elles sont censées... Voilà. Non, mais il y a plusieurs problèmes. C'est-à-dire qu'il y en a beaucoup. Donc, on ne sait plus à qui donner. Alors, il y a les très, très grosses qu'on connaît. Ils ont un problème aussi de... D'ailleurs, aujourd'hui, il y a du mécénat de compétences que font les entrepreneurs pour aider ces entreprises à les gérer.
C'est du mécénat de compétences?
Le mécénat de compétences, je travaille pour un cabinet de chasse de tête, par exemple, qui, au lieu d'aller donner de l'argent, vont les aider à se former et à avoir les bonnes personnes. Si vous mettez, je caricature pas la petite dame qui gère la sauce mais qui a jamais fait de comptabilité de sa vie, aujourd'hui l'argent que l'on donne à certaines associations sont aussi très mal utilisés. Donc il y a aujourd'hui un besoin de professionnaliser les associations, y compris dans l'utilisation de l'argent. Ça c'est hyper important parce que quelquefois ce n'est pas bien géré et quelquefois c'est pour ça aussi qu'on se demande où va notre argent et que investir sur un projet c'est important. Puis la réforme qui est en cours, menée par Gabriel Attal, qui vient de notre secrétaire d'État, vient de lancer ça, c'est de dire il faut effectivement réduire, essayer de voir si on peut réduire la réserve héréditaire que l'on donne à ses enfants, des personnes les plus riches en France, pour pouvoir les donner à des associations. Mais des
Isabelle
associations
de
Gaulmin, qui seront référencées.
J'ai lu dans La Croix un autre système, une initiative qui s'appelle « Changer par le don » pour inciter les plus hauts revenus à reverser 10% de leur paye à des activités philanthropiques. Je ne sais pas si ça a pris, cet appel-là.
C'est un peu tôt encore, mais c'est des grands chefs d'entreprise qui font ça pour justement dire que c'est bien aussi de donner, que la philanthropie c'est bien. C'est pas simplement un moyen de défiscaliser, parce que c'est ça le problème en France. Il y a des pays où la philanthropie est beaucoup plus développée, où c'est un vrai engagement citoyen.
Bon, on va revenir sur cette discussion juste après un rappel des titres. À nouveau 20h20 sur France Info, c'est avec Julie Smul.
L'évasion d'un détenu de 29 ans cet après-midi à la prison de Fresnes dans le Val-de-Marne. Un prisonnier qui a escaladé les murs d'enceinte. Les surveillants ont tiré plusieurs fois, mais il a réussi à s'échapper. Cet homme était incarcéré pour des vols avec effraction. Au moment de sa condamnation, il y a 2 ans, il s'était déjà échappé du tribunal de Créteil. L'aveu aujourd'hui d'Alexandre Benalla dans les colonnes du journal du dimanche. Il s'est bien servi de ses passeports diplomatiques après sa mise à pied par l'Élysée. Dans cette affaire, le parquet de Paris a ouvert une enquête, notamment pour abus de confiance. Beaucoup de monde et beaucoup d'incidents aussi aujourd'hui pour les élections générales en RDC. Des files d'attente interminables devant les bureaux et des problèmes logistiques, du matériel qui manque ou qui ne marche pas, des tentatives de fraude et de corruption aussi. Résultat attendu le 6 janvier. Suite et fin de la 13e journée de Top 14, c'est du rugby. Bordeaux-Bègles vient d'écraser le Racing 92 40-7. Victoire également aujourd'hui de Montpellier 41-13 face à Pau. Dernier match à partir de 20h45. Tout à l'heure, le Stade Toulousain accueille le RC Toulon. Et puis seulement 14 femmes dans le top 50 des personnalités préférées des Français. La première, Sophie Marceau, est 16e. Un chiffre qui fait réagir. D'après Maître Mécari, avocate au barreau de Paris, interrogée sur France Info, c'est tout simplement le reflet de la société dans laquelle nous vivons.
France Info.
20h, 21h, les informés.
Augustin Arrivé.
Ça fait 2 mois que pour Emmanuel Macron, c'est surtout le désaveu. Alors demain, exceptionnellement, il va tronquer une partie du mot. Plus de désaveu, mais des vœux tout court, des vœux présidentiels. Qu'est-ce qu'il doit dire demain, Emmanuel Macron, pour satisfaire une majorité de Français? Je commence par vous, Fabien Testé. Quelle posture il doit prendre?
Juste, alors, je réponds tout de suite à la question, mais pour finir sur le sujet d'avant, les dons, si vous permettez.
Très bien, je vous permets, bien sûr.
Ce qui est cocasse, je trouve, c'est qu'on a... finalement, cette affaire de dons, c'est l'argument le plus noble qu'on ait trouvé pour achever définitivement la théorie du ruissellement, puisque la conclusion...
Restez bien face au micro.
la conclusion qu'on peut en tirer, c'est que plus les riches paient d'impôts, plus ils sont généreux. Donc je crois que là qu'on a vraiment l'argument le plus noble pour mettre à terre cette théorie. Sur demain soir, on est donc les 501e, 2e, 3e et 4e à répondre à cette question, mais elle mérite d'être posée. Moi, je suis pas sûr.
Vous serez les meilleurs.
Voilà, sûrement. Je suis pas sûr que les Français. C'est la même chose pour le 14 juillet. D'ailleurs, il y a plus de discours systématique le 14 juillet. Je suis pas sûr que les Français attendent forcément un grand discours, de grandes orientations. Demain, ils sont en famille avec des amis. Ils vont profiter du moment. Donc, je suis pas sûr que les Français aient pour demain soir une grande attente. Et par ailleurs, le président de la République, on peut pas lui demander non plus tous les 15 jours de mettre sur la table des annonces qui pèsent 10 ou 15 milliards. Enfin là, il vient de faire, il y a 15 jours, un discours important. Il a fait des annonces socio-économiques. Il y en a pour un demi-point de PIB. Donc je pense qu'on peut pas lui demander 15 jours après de refaire des annonces, même si répondant sur le terrain socio-économique, il n'a répondu qu'à une partie des préoccupations des Gilets jaunes. Il y a des sujets de fracture territoriale. Il y a des sujets institutionnels.
La question, c'était le 10 décembre, donc, mais est-ce que c'est vraiment le même exercice, là, Patricia Chaplotte
En tout cas,
le même exercice que l'année
dernière. Le 10 décembre dernier, non. Quand il s'exprimait déjà, une allocution déjà depuis l'Élysée, donc sur la forme, c'est la même chose, sur le fond, c'est différent.
Moi, je pense que là, les Français n'attendent pas d'annonce, puis je ne sais pas quelle annonce il pourrait faire, le pauvre, là, il en a fait beaucoup, donc on va peut-être se calmer un peu. Mais je pense qu'on l'attend plus sur la forme que sur le fond. On l'a dit, peu en empathie avec une certaine catégorie de Français. Il arrive de la banque Rothschild, il n'a pas compris la France des territoires, il est arrogant, il est jeune, il plaît aux start-upers, mais la France rurale ne le comprend pas. Donc je pense que là, il faut qu'il essaie. Je ne sais pas s'il va y arriver, parce qu'il est lui, donc on ne peut pas non plus le changer. Mais il faut qu'il essaie, moi, je parle en communiquant, d'essayer de créer de l'empathie avec les gens, d'essayer de trouver...
Ça passe par quoi ?
Ça passe par des mots, ça passe par des mots, ça passe par des formules, je sais pas, ça passe par peut-être un regard, enfin ça passe par plein de choses, mais
justement le 10 décembre, on avait dit, les analystes en tout cas avaient dit qu'il avait plutôt bien géré cette partie-là de l'exercice.
Je pense qu'il a bien géré, mais on fait de la morphopsychologie, c'est-à-dire que voilà, il a ce côté un peu Kennedy à la française, les dents blanches, il est jeune, il est beau, il a le côté un peu. Bah oui, non, mais je suis désolée, ça vous fait marrer, mais il est quand même pas très France d'en bas, comme disait Jean-Pierre Raffarin. Donc c'est compliqué pour lui de trouver.
On n'a pas les dents propres.
Ouais, c'est ça. Non, il y avait les 100 dents de François Hollande. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que voilà, c'est vrai que physiquement, il peut stigmatiser certaines personnes parce qu'il ne correspond pas. Jacques Chirac, quand il tapait le cul des vaches au salon de l'agriculture, ça faisait vrai. Voilà. Donc Emmanuel Macron, pour l'instant, il a un petit problème de lien avec une France qui peut-être aussi il ne connaît pas très très bien et qui ne l'apprécie pas très bien.
Il va faire venir une vache dans le bureau de l'Élysée pour se mettre.
Je suis pas sûr que ce soit une bonne
non,
idée.
Je
hein.
crois pas, non, je crois non. pas que ce soit son intention.
Non.
C'est vrai
chose.
Que traditionnellement, l'intervention du 31 décembre, c'est pas une intervention où le président de la République fait des annonces. Et puis c'est vrai qu'il en a fait effectivement beaucoup le 10 décembre et que le 10 décembre, l'exercice c'était il faut éteindre l'incendie des Gilets jaunes. Et là, on va être dans un autre exercice. On est plus dans un exercice où on essaye de donner le fil rouge que le gouvernement et l'État et la société vont suivre pour l'année 2019. Alors, le 31 décembre de l'année dernière, il faut se rappeler quand même qu'il avait commencé par dire l'année 2018 sera celle de la cohésion de la nation.
Et alors, vous voulez l'entendre ?
On peut dire qu'il était extrêmement...
L'année 2018 sera, à mes yeux, celle de la cohésion de la nation. Nous nous sommes trop longtemps, trop souvent divisés. Les débats sont nécessaires, les désaccords sont légitimes, mais les divisions irréconciliables minent notre pays. Je veux plus de concorde pour la France en 2018.
Voilà un vœu qui n'a pas été exaucé.
Non, oui, enfin, il y a été effectivement très très violemment confronté avec les Gilets jaunes, où là, quand on parle de fracture à l'intérieur de la société, c'est clair. Donc là, il va devoir mener vraiment un numéro d'équilibriste entre rassurer, donner des gages effectivement aux gens qui sont inquiets, et de l'autre, maintenir quand même le cap des réformes pour donner des gages, là pour le coup, à ceux qui ont voté pour lui. Et il a des grosses réformes devant lui, il y a celle des retraites notamment, qui va être très chaude à gérer.
Isabelle de Gaulmin, les archives sont cruelles, mais bon, qu'est-ce qu'il doit dire demain?
Oui, les archives sont cruelles, mais elles pourraient être aussi cruelles pour les journalistes. ça, parce qu'il y a un an, tout le monde disait « Ah là là, formidable, ce président, tout lui réussit, il a le lien avec les Français, on l'aime, on est très fiers. »
C'est un boulevard.
Donc, on pourrait aussi se faire le même exercice d'autocritique. Et en fait, il y a comme ça un mouvement de balancier qui est assez effrayant dans le pays, de popularité qui monte et puis qui descend tout aussi rapidement. Donc voilà, je pense qu'effectivement, aujourd'hui, il n'a pas tellement le choix, il doit être très sobre. Peut-être quand même parler des grandes échéances, il y a quand même une grande échéance qui lui tient à cœur, c'est l'Europe. Voilà, un sujet sur lequel il peut parler.
Les élections
et
européennes
en mai. Et
peut-être
une autre échéance, enfin, une autre perspective qu'il n'a absolument pas abordée le 10 décembre, c'est l'écologie, quand même, puisque, effectivement, au contraire, il a plutôt...
il en a quand même parlé.
Il en a parlé, mais pour dire que finalement, on n'avait pas taxé. Donc, là, il y a peut-être aussi, peut-être pas des annonces, mais en tout cas, un cadre à fixer. Et puis, ce fameux grand débat dont on ne sait pas bien à quoi ça va conduire. Qu'est-ce que ça va faire, finalement, ce grand débat ?
Tenez, on continue de parler des véhicules du transport avec le PC Mobilité de Radio France. Florian Cazola, il y a un accident sur l'autoroute A15 en ce moment dans le sens en direction de Paris.
Oui, Augustin, accident juste avant d'arriver à Gennevilliers qui engendre 2 km de bouchon. Autre accident en région parisienne sur l'A3, toujours en direction du périphérique. Collision entre deux voitures à hauteur de Bondy. À vous signaler également ces ralentissements sur l'A86 extérieur de Nogent-sur-Marne à Rosny-sous-Bois, sur le périph' extérieur entre la Porte d'Italie et Saint-Mandé. En région, la circulation est tout à fait fluide. Ce soir, Vinci nous informe tout de même de quelques manifestations de gilets jaunes toujours en cours. C'est notamment le cas sur l'A7. Les échangeurs de Bolène et d'Orange Sud sont fermés, tout comme l'entrée et la sortie de Narbonne Sud sur l'autoroute A9.
France Info Météo, avec les cafés Malongo, grand cru biologique et équitable. Sans aluminium, nos doses en papier protègent l'homme et la nature. À retrouver sur malongo.com.
Toujours de la grisaille au nord, Jean-Michel Golinski, Météo France.
La maxime, les jours se suivent et se ressemblent, va pouvoir se vérifier ces prochains jours. Il faudra en fait attendre le mercredi 2 janvier pour que la situation se débloque enfin, permettant le retour d'éclaircies par le nord-ouest, mais dans des températures un peu plus fraîches. D'ici là, pour la journée de demain et celle du 1er janvier, les températures de l'après-midi vont partout afficher le même niveau qu'aujourd'hui, avec en fin de nuit quelques points vers 0-2 degrés, principalement dans le quart sud-ouest. Pas de changement non plus au niveau de la couleur du temps, avec du gris généralement bien uniforme sur une large moitié nord, de la Manche à la Nouvelle-Aquitaine, à l'Auvergne et à Rhône-Alpes. Dans le sud-ouest, les trouées seront aléatoires vu la faible évolution des nuages bas. Enfin, le soleil sera pour les régions méditerranéennes, également pour le massif des Pyrénées et des Alpes.
Les prévisions Météo France de Jean-Michel Golinski. Merci d'écouter France Info, il est 20h30.
France Info.
De quoi ouvrez l'info.
Et le retour d'Antoine Geoffin.
Bonsoir. La caserne des pompiers de Montbrison dans la Loire devra faire sans deux de ses véhicules ces prochains jours. Ils ont tous les deux été volontairement dégradés. Hier, il aura suffi d'une soirée pour voler et incendier ces deux véhicules, Nerissa et Mani.
C'est la première fois que de tels faits se produisent dans la Loire. Hier, vers 21h, un premier 4x4 est dérobé dans la caserne des pompiers de Montbrison. À ce moment-là, une brigade est en intervention. À l'aide d'un riverain, le véhicule est assez vite retrouvé. Il a été incendié. Pendant ce temps, les malfrats en profitent pour voler un autre 4x4 dans la caserne. Il a été retrouvé ce matin, dégradé et en partie brûlé. Les deux véhicules sont hors d'usage. Selon un pompier syndicaliste, les camions seraient garés dans la remise à l'intérieur de la caserne. Et pendant une opération, il arrive que la porte du garage reste ouverte. Selon ce même syndicaliste, les dégradations à l'intérieur des véhicules laissent penser que l'incendie est criminel et provoqué par des amateurs. Une enquête a été ouverte par la brigade de gendarmerie de Montbrison qui a également lancé un appel à témoins.
On vote encore ce soir en République démocratique du Congo, mais le dépouillement n'est plus très loin. 40 millions d'électeurs appelés aux urnes aujourd'hui pour désigner un successeur au président Joseph Kabila. Un scrutin marqué par de nombreux incidents, notamment des bugs techniques liés aux machines à voter. Les résultats provisoires sont attendus le 6 janvier. La nuit de la Saint-Sylvestre, c'est demain et la sécurité sera renforcée autour des Champs-Élysées. À partir de 16h, mise en place d'un périmètre autour de l'avenue avec des points de filtrage, notamment sur les réseaux sociaux circulent des appels de gilets jaunes à y passer le réveillon. Un événement festif et non violent, promet la page Facebook de l'événement. Le ministre de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer, condamne les dégradations dans un collège de Tulle en Corrèze. Des jeunes s'étaient introduits jeudi soir dans l'établissement pour saccager du matériel. La scène avait été filmée et diffusée sur les réseaux sociaux. Selon la police locale, il y en a pour plusieurs dizaines de milliers d'euros de dégâts. Il était porté disparu depuis vendredi soir. Un homme de 64 ans a été retrouvé mort aujourd'hui en Haute-Savoie, à proximité de la pointe du Platé, à 2300 mètres d'altitude. Ce randonneur était parti seul pour une course à ski de randonnée. On ne connaît pas encore les circonstances de sa chute. Enfin du rugby, suite de la 13e journée de Top 14 cet après-midi. Il n'y a pas eu de match entre Bordeaux-Bègle et le Racing 92 en Gironde. Victoire facile des Bordelais 40-7. Les Racingmen réduits à 14 en fin de match. En début de match plutôt, ont sauvé l'honneur à la toute fin. Et puis un peu plus tôt cet après-midi, victoire avec bonus de Montpellier contre Pau 41-13. À suivre d'ici une quinzaine de minutes, Toulouse-Toulon. En attendant, il est 20h33 sur France Info. C'est les informés.
20h-21h, les informés.
Augustin Arrivé.
Et dans le studio des informés ce soir, Isabelle de Golemin du journal La Croix, Fabien Tasté de l'Association des administrateurs territoriaux de France, Hervé Gauthier du service économie et sociale de France Télévisions et Patricia Chaplotte, génération femme d'influence, présidente d'Albera Conseil. On a fait un point sur l'année qui vient, l'année 2019, avec les vœux d'Emmanuel Macron il y a quelques minutes. Maintenant, on va revenir sur l'année 2018. Jair Bolsonaro, président de la République brésilienne, prendra ses fonctions après-demain, élu d'extrême droite. Matteo Salvini, ministre italien de l'Intérieur en poste depuis juin, élu d'extrême droite. Heinz Christian Starre, vice-chancelier d'Autriche depuis la fin décembre 2017, il y a un an, élu d'extrême droite. Le camp républicain de Donald Trump a augmenté son nombre de sièges au Sénat américain dans les élections de mi-mandat. L'extrême droite est devenue en 2018 le deuxième parti de Suède. On a vu des rassemblements néo-nazis en Bavière. Est-ce que je dois continuer? Je ne pense pas. Que se passe-t-il sur la planète? Qui veut commencer à répondre? Patricia Chaplotte, peut-être?
Bah écoutez, c'est vrai que c'est assez inquiétant de voir ces montées de populisme. Je regardais tout à l'heure, je crois que les partis populistes représentaient 5% des voix en 2000 et aujourd'hui on est à plus de 25% des voix dans beaucoup de pays que vous venez de citer. Alors peut-être qu'on rejoint le sujet qui nous intéresse ici en France, ce sont les gilets jaunes. C'est-à-dire qu'on a un peu le sentiment qu'il y a une rupture très forte entre les élites et les classes moyennes. On a le sentiment que les élites et les élites politiques ne parlent plus aux classes moyennes qui ne se sentent pas écoutées. Et ceux qui, justement, arrivent au pouvoir, eux, se revendiquent être les porte-parole du peuple. Donc voilà, on a un moment où là, encore une fois, comme on le disait tout à l'heure, on a des élites qui ne sont plus entendues, ou en tout cas qui ne sont plus comprises par les classes moyennes, ouais. Moyennes ou voire très populaires.
Isabelle de Golemin, est-ce qu'il n'y a pas aussi un effet domino quand toute une série de pays tente l'expérience populiste? Eh bien, quelque part, on se dit bon, bah pourquoi pas nous?
Oui, je suis pas sûre. Moi, je serais plutôt d'accord. Je pense qu'il y a effectivement un phénomène mondial qui fait que les gens se sentent aujourd'hui en insécurité. On est dans un monde complexe, avec des frontières qui ont été abolies. Et peut-être dans un monde complexe, il y a un besoin, parce qu'on voit que tous ces leaders populistes, ils ont une phrase un peu fétiche de dire qu'il y a un peuple et qu'eux, ils savent ce qu'est le peuple. Donc, ils refusent finalement le pluralisme. Il y a juste, une masse qu'ils prétendent représenter eux. Et puis, il y a autre chose qui moi, me frappe. Alors, peut-être parce que je suis à la croix, mais c'est l'aspect religieux quand même. C'est-à-dire qu'on observe dans la plupart de ces dictatures, de ces nouveaux mouvements populistes, un lien très fort avec la religion. Vous avez cité le Brésil avec les évangéliques. On sait aussi Trump, Orban avec l'Église catholique hongroise. Donc, il y a une tentative aujourd'hui, après avoir finalement essayé et rejeté des grandes idéologies laïques comme le communisme, de repartir de la religion et d'en faire le creuset d'une nouvelle identité qui me paraît vraiment très, très dangereuse. Et ça, je crois qu'il faut faire attention à ce nouveau phénomène, à cette instrumentalisation de la religion qu'on voit de plus en plus dans le monde autour de nous.
Donald Trump, c'est un indicateur d'autre chose parce qu'il y a eu ces élections de mi-mandat et donc il y a une première indication de, après l'exercice du pouvoir, est-ce que la population est satisfaite de la politique menée? Et bien finalement, on a l'impression que oui, puisque au Sénat, il y a davantage d'élus républicains qu'avant. Hervé Gauthier, ça, c'est quelque chose d'important?
Oui, oui. Mais Donald Trump n'a pas été élu par hasard. Il a vraiment été élu par les Américains qui voulaient effectivement ce type de gouvernance avec ce type de président. C'est assez étonnant après Barack Obama, mais c'est une réalité américaine. Je pense qu'effectivement, d'une manière globale, Donald Trump, ça n'est pas un effet domino. C'est pas un effet domino, mais en revanche, il a donné un signal. Il donne un signal, il permet, il libère une forme de parole, une forme, il désinhibe absolument une forme de populisme 2.0 où on tweet pour parler directement au peuple, où on se débarrasse complètement de tous les corps intermédiaires, où on est omnipotent, omniprésent, et ça on le retrouve effectivement dans tous ces populisme, tous ces pouvoirs populistes qui se développent, que ce soit en Europe ou dans le reste du monde. Après, pourquoi est-ce que ça arrive maintenant? Moi, j'ai l'impression qu'on est dans un effet de perte de sens et de repli sur soi qui est assez généralisé, qui peut trouver son origine d'abord dans le fait que, paradoxalement, on sort de la crise économique mondiale, mais qu'il y a dans tous les pays des gens qui estiment qu'ils n'ont pas profité de ce retour à meilleure fortune. Et que ça crée une espèce de fracture sociétale et économique à l'intérieur de ces pays-là. Ça, c'est très fort, par exemple, aux États-Unis. C'est très fort au Brésil également.
Certains ne s'en rendent pas forcément compte aujourd'hui. Non, mais c'est un vécu. Crise économique, parce qu'il y a du chômage.
Justement, tout le monde n'en profite pas. Et pourtant, la croissance. Dire qu'on est tous au chômage et qu'on est dans une situation difficile quand on est en pleine crise économique, c'est plus supportable que quand on sait que la croissance économique est de retour à l'échelle mondiale et que tout le monde n'en profite pas. Je pense que ça, c'est un premier élément. Et l'autre élément, c'est que beaucoup de ces pays vivent, ou en tout cas ont l'impression de vivre, sous une pression migratoire forte. Et là aussi, évidemment, ça pousse dans un repli sur soi et un rejet de l'autre.
Bon, alors ça, c'est l'Italie. Fabien Testé...
Pas seulement l'Italie, c'est à peu près tous les pays d'Europe aussi. Et les États-Unis.
L'Autriche, la Hongrie...
Pour ce qui est de l'Italie, en tout cas, il y a depuis quelques mois ce bras de fer avec Bruxelles sur le budget italien. Ça, est-ce que c'est bien pris, d'après vous, par la population italienne, quand on se retrouve à montrer les muscles de cette manière?
Oui, parce que ça donne le sentiment aux Italiens que ceux qu'ils ont élus peuvent peser sur le système. Aujourd'hui, je pense que tout le monde fait le constat que la mondialisation a créé, alors à tort ou à raison, mais c'est en tout cas le ressenti d'une majorité de gens, a créé plus de perdants que de gagnants. Voilà. Aujourd'hui, on n'est plus dans un moment où on pouvait s'interroger, finalement c'est un bon système, ça répartit mieux l'épargne, les richesses, etc. Aujourd'hui, il y a un sentiment général que le système crée plus de perdants que de gagnants. Et à part le loto, où les perdants continuent de jouer. Je ne connais pas beaucoup de systèmes où, quand il y a plus de perdants que de gagnants, on vote pour que ça continue et on se mobilise pour que ça continue. Donc je crois que ça génère la montée des populismes. 2018 est une année assez inquiétante, mais 2019, la reprise de la guerre commerciale entre les Chinois et les Américains, les élections européennes, moi je crains que 2019 soit pire que 2018. Et la conséquence de la montée de ces populismes, c'est quand même la fin du multilatéralisme.
On va en parler dans deux minutes des élections européennes.
En matière d'ordre international.
Je vous interromps deux minutes puisque Julie Smul est de retour en studio. Ça veut dire que c'est le moment d'un nouveau rappel des titres. Il est 20h40 sur France Info.
Une évasion cet après-midi à la prison de Fresnes. Un détenu de 29 ans qui fait une échelle de cordes et de draps, qui escalade les murs d'enceinte et qui réussit à s'enfuir malgré les tirs des surveillants. Un prisonnier déjà condamné à 3 ans pour avoir essayé de s'enfuir d'un tribunal. Il était incarcéré à Fresnes après des vols avec effraction. Sécurité renforcée partout en France demain pour la nuit du réveillon. 148 000 forces de l'ordre mobilisées. À Paris, plus de 8 000 gilets jaunes prévoient de participer à un rassemblement sur les Champs-Élysées. Un périmètre de sécurité sera déployé autour de l'avenue à partir de 16h. Jean-Michel Blanquer condamne ce soir les dégradations de jeudi dernier dans un collège de Tulle en Corrèze. Des actes de vandalisme au collège Victor Hugo filmés et postés sur les réseaux sociaux. Plusieurs dizaines de milliers d'euros de dégâts. Le travail sera fait pour assurer la rentrée, promet le ministre de l'Éducation. La première ministre du Bangladesh remporte les législatives. Sa coalition obtient la majorité au Parlement, mais l'opposition rejette ce résultat. Elle dénonce des fraudes et demande l'annulation du scrutin. Des affrontements entre partisans des deux principaux partis ont déjà fait 17 morts dans le pays. Et puis seulement 300 supporters marseillais autorisés dimanche prochain au stade Geoffroy-Guichard de Saint-Étienne.
week-end. Match de Coupe de France entre l'OM, Ligue 1 et l'ASF Andrézieux-Boutéon, club de National 2. Décision ce soir de la préfecture de la Loire qui craint des affrontements entre Stéphanois et Marseillais.
France Info.
20h, 21h, les informés.
Augustin Arrivé.
Fabien Tastet, vous parliez à l'instant des élections européennes de mai prochain. Matteo Salvini et Marine Le Pen ont lancé ensemble leur campagne des européennes. C'était en octobre dernier.
Nous avons l'honneur, comme dit Marine, d'être mis à l'épreuve du pouvoir et de montrer que ceux que l'on appelle les populistes sont meilleurs pour gouverner que les socialistes. Et ça sera bientôt le tour de Marine. Et c'est ce que je souhaite aux Français.
Voilà, il y a une montée des populistes un peu partout en Europe, pas partout, pas en Espagne par exemple, où c'est Pedro Sanchez qui est arrivé au pouvoir en juin, même si sa majorité est assez fragile. Hervé Gocho, il y a une autre nouveauté, je crois que c'est nouveau, c'est qu'il s'allie ces populistes entre eux, ces transfrontaliers finalement.
Bah oui, bien sûr. Hein. On va voir l'international populiste, effectivement, qui va grandissante en Europe, les uns se soutenant avec les autres. Oui, bien sûr, c'est clair que ça crée un vrai risque pour ces élections européennes. Mais ça va bien au-delà parce que si on revient sur un discours un tout petit peu franco-français, d'abord ces élections européennes en France risquent de se retourner en élection contre Emmanuel Macron et en référendum contre Emmanuel Macron et le lui faire payer. Mais ça va bien au-delà de ça. C'est que en 2017, quand Emmanuel Macron a été élu président de la République, et le génie, entre guillemets, d'Emmanuel Macron, ça avait été de dire aux gens qui en avaient assez de la gauche et de la droite, eh bien moi, je vous offre une alternative au centre. Et ça a marché, même s'il a été élu que par 24% des Français, il a quand même été élu, et ça a marché. Mais si on se retrouve en 2022 à avoir à nouveau ce rejet de la gauche et de la droite, mais aussi un rejet de l'alternative au centre, où est-ce qu'on va aller ?
Patricia Chaplotte, c'est loin encore 2022, il peut y avoir une figure qui émerge, il y en a déjà d'ailleurs.
Oui, parce que Emmanuel Macron l'avait pas vu venir, donc ça, les figures qui émergent, il y en aura toujours. Mais je pense qu'effectivement, les européennes, c'est pas loin, c'est tout près, et on a effectivement un risque de se. C'est-à-dire qu'on a aussi, comme vous le dites, ce parti qui est La République en Marche, qui pour l'instant n'existe pas, qui a un jeune dirigeant qui vient d'être élu, Stanislas Guérini, en pleine guerre des Gilets jaunes, si je puis dire. Personne ne le connaît, il n'est pas incarné. On a donc un mouvement qui est quand même un parti politique, on le nomme, qui n'est pas incarné. Donc ça va être effectivement très compliqué pour Emmanuel Macron.
Son incarnation, c'est surtout Emmanuel Macron.
Pour Isabelle l'instant, oui, malheureusement. Oui,
oui en fait, ce qui va être aussi intéressant pour les européennes, c'est de voir l'attitude de la droite. Parce qu'il y a quand même une droite, il ne faut pas l'oublier. Donc est-ce que cette droite, elle va être pro-européenne ou anti-européenne ? Donc est-ce qu'elle va être plus côté, finalement, Marine Le Pen ou plus côté Macron ?
Ça dépendra de s'il y a une primaire.
Ça dépendra aussi du candidat, du candidat que Wauquiez va bien vouloir choisir pour mener ces listes européennes, mais c'est important parce que soit Macron va se retrouver face à face avec le Front National, soit il y aura un vrai choix entre conservateurs et sociaux-démocrates pour l'Europe, en France comme en Allemagne, etc. Et ça sera à la limite plus sain. Donc il faut voir comment la droite va se positionner. Pour l'instant, elle est vraiment très floue sur ce sujet.
Bon, on va passer à autre chose. Je vous ai demandé, avant d'arriver dans le studio, de choisir un événement marquant dans l'actualité, alors française, celle-là de l'année 2018. Isabelle de Golemin, vous aviez la parole, je reste avec vous. Vous êtes missionnée par Stéphane Bern pour venir dans notre studio. Vous avez choisi le loto du patrimoine. Bah,
écoutez, moi j'aime bien les gens enthousiastes. Donc moi, Stéphane Bern, je l'aime bien, je le dis, je l'avoue.
Nous voilà.
Moi, je trouve que c'est intéressant ce loto pour le patrimoine. D'abord parce que ça a marché quand même, l'air de rien. Alors, il y a eu une bonne collecte. Hein. Je crois qu'il y a eu 20 millions d'euros. C'est évidemment pas assez pour tout le patrimoine. Mais ce que je trouve très intéressant, c'est qu'il y a eu un appel à projet et qui a rencontré un grand succès. Il y a plus de 2000 projets dans toute la France qui sont montés. C'est-à-dire que les Français qui sont râleurs, qui sont pas contents, qui manifestent, qui détruisent, etc., ce sont aussi des Français qui aiment leur patrimoine. Et c'est ça qui est intéressant. Et le loto va permettre
qui ont envie de gagner de l'argent, peut-être aussi en grattant.
Oui, alors pour les Français qui jouent au loto, mais n'empêche que pour tous les gens qui se sont mobilisés localement, les élus locaux qui ont quand même chacun défendu des projets super intéressants, moi je trouve que c'est un bon signe, c'est-à-dire que dans la France, il y a des Français qui aiment leur patrimoine, qui vont le défendre, et c'est pas que la petite église ou le patrimoine un peu comme ça solennel, il y a un patrimoine industriel, il y a des préfectures, il y a des théâtres, il y a toutes sortes de patrimoines, c'est une liste à la Prévert, c'est intéressant, et ça veut dire que, voilà, on tient encore à notre histoire.
Bon, très bien. Fabien Testé, alors vous voulez nous parler d'une réunion d'élus qui s'est tenue en septembre, est-ce que vous pouvez préciser ça?
Oui, ça c'est mon actu de l'année que je voudrais distinguer.
Stéphane Bern n'y était pas?
Non, pas à ma connaissance. Mais en septembre, les trois grandes associations d'élus ont fait quelque chose d'assez extraordinaire, elles se sont regroupées, elles se sont donné un format souple de coopération qui s'appelle Territoires Unis.
Alors quelles sont déjà ces trois associations d'élus?
L'association des maires de France, l'association des départements et l'association des régions de France. Et donc elles se sont regroupés et ça ne s'était jamais vu, et c'était, j'ai envie de dire, un signal prémonitoire qui était envoyé au président de la République, le signal de cette déconnexion majeure entre le pouvoir central, entre les territoires, entre les acteurs de terrain. Et je trouve que c'est intéressant parce que c'était quelques semaines avant le mouvement des Gilets jaunes, mais ça disait déjà beaucoup de l'irritation maximum, de l'agacement des territoires par rapport à ce pouvoir qui les entend mal ou les entend peu, qui les considère peu. Et je trouve que c'est tout à fait emblématique de l'impasse de la gouvernance du président de la République jusqu'à ce jour.
On avait déjà vu lors de la rentrée scolaire quelques signes déjà de maires de petites communes.
C'était pas un signal si faible que ça, et ça disait déjà beaucoup de l'état du pays fracturé. Et pourtant, le gouvernement n'a pas traité ou a peu traité ce sujet. Et puis quelques semaines après, on a eu les Gilets jaunes. Voilà. Donc je pense que ça dit beaucoup de la façon dont Emmanuel Macron s'est enfermé dans l'exercice d'un pouvoir un peu solitaire, un peu autiste, aux forces qui activent réellement le pays.
Voilà. Et Patricia Chaplotte, vous avez choisi le suivi logique de cette histoire. La suite, c'est les Gilets jaunes, mais avec un angle particulier.
Oui, il y a deux angles qui m'intéressent dans cette, parce que je pense que ça sera dans les livres d'histoire de nos enfants et de nos petits-enfants. Je pense que les Gilets jaunes marqueront peut-être pas autant que mai 68, mais peut-être, parce que c'est évidemment pas terminé, donc on ne peut pas savoir. Il y a deux choses qui ont été marquantes. Une chose qui me touche en tant que féministe, j'allais dire, c'est la présence des femmes dans cette manifestation. C'est la place que les femmes y ont prise, et les médias l'ont relativement beaucoup relayé. Toutes ces femmes qui se sont retrouvées sur les ronds-points, qui ont exprimé des choses que peut-être les hommes ne disent pas assez. À chaque femme interviewée, elle disait toujours, on n'est pas là pour nous, on est là pour nos enfants. On ne veut pas que nos enfants vivent cette vie galère, cette vie qui voilà, où on fait
Jacqueline
rien.
Jacqueline Mourot, qui est une femme, qui était presque à l'initiative du mouvement, en tout cas l'une des premières.
Oui, et c'était pas une geek, mais elle a lancé son appel sur les réseaux sociaux, donc on voit aussi la puissance des réseaux sociaux, dans ce monde moderne qui finalement ne touche pas que les jeunes des villes, mais une dame du fin fond de la Bretagne, je crois, a lancé ce mouvement en criant un petit peu « Monsieur Macron, rendez-nous le pognon ». Je trouvais que cette phrase était assez drôle et c'est celle qui a marqué. Donc voilà, donc je pense que les Gilets jaunes auront marqué l'année 2018. Les femmes auront aussi exprimé. Voilà, on s'est peut-être un peu rendu compte que il y avait vraiment des familles monoparentales, voilà, qui vivaient, des mamans qui élevaient seules leurs enfants et qui vraiment se battaient non pas pour elles mais pour l'avenir de leurs enfants. Et ça, j'ai trouvé ça extrêmement touchant et fort.
Et je rappelle le nom de votre organisation, Génération Femmes d'Influence. Ceci explique peut-être cela. Hervé Gauthier, ne vous en faites pas, on va venir.
Et elles ont été des femmes d'influence d'ailleurs.
À votre actualité française de l'année, juste après un rappel des titres. Julie Smul, 20h50 sur France Info.
Il est ce soir en cavale. Un détenu s'est évadé cet après-midi de la prison de Fresnes. Il a escaladé le mur d'enceinte en évitant les tirs des surveillants. Il s'est blessé à la main avec du fil barbelé et a disparu. Un homme de 29 ans incarcéré à Fresnes pour des vols avec effraction. Les pompiers des Bouches-du-Rhône portent plainte après avoir été agressés hier soir à Miramas. Des projectiles lancés sur leur camion alors qu'ils venaient pour éteindre un feu. Alexandre Benalla s'est bien servi de ses passeports diplomatiques après sa mise à pied cet été. Il le reconnaît aujourd'hui dans les colonnes du journal du dimanche. Il les a utilisées, dit-il, pour confort personnel. Il promet de les rendre dans les prochains jours. Bientôt, un match de foot féminin organisé dans le plus grand stade d'Iran. Une première depuis près de 40 ans, depuis la révolution islamique de 1979. Seules les femmes seront autorisées à y assister. Ce sera l'équipe nationale féminine d'Iran contre celle de Russie. La date de ce match historique n'a pas encore été fixée. Et puis le coup d'envoi vient d'être donné. Dernier match de la 13e journée de top 14 de rugby. Le stade toulousain accueille le RC Toulon. Avant ça, aujourd'hui, Bordeaux-Bègles a écrasé le Racing 92, 40-7. Victoire aussi de Montpellier, 41-13, face à Pau.
France Info.
20h, 21h, les informés.
Augustin Arrivé.
Hervé Gocho, pour finir le tour de table, vous, votre actualité française de l'année, c'est un soir de juillet qui semble déjà très loin.
Oui, alors non, je ne voulais pas commencer par ça justement. Moi, je vais être un peu à contre-emploi, je vous assure que c'est à contre-emploi pour moi. Je vais vous parler de sport parce que je vais parler des Bleus qui gagnent. Mais avant de parler du mois de juillet, je vais parler d'abord des femmes
Des handballeuses.
En bleu. Bah oui, parce qu'il y a quelques jours, il y a les handballeuses,
ouais, les handballeuses
qui ont
gagné.
Été championnes d'Europe. Et c'était vraiment un moment de liesse qui était très, très, très sympathique et très enthousiasmant. Et puis, bien sûr, les hommes, là, pour le coup, les Bleus qui ont gagné la Coupe du Monde de football. Alors, pourquoi je vais en parler? Parce que, d'abord, c'était un moment qui était très joyeux et c'est une actualité heureuse de l'année et très enthousiasmante. Mais j'ai trouvé que c'était intéressant de voir la différence qu'il y avait dans la manière avec laquelle on l'avait vécu cette année en 2018. 20 ans après, 98 ans. 98, alors d'abord je pense qu'on a peut-être une vision un petit peu trop enthousiaste de 98 et que si on le revivait aujourd'hui, on le verrait pas de la même manière, mais en 98 c'était une liesse absolument incroyable, la foule, ça avait duré pendant plusieurs jours, on avait parlé de la génération des Black Blanc Beurre, enfin d'un
là,
seul
ça
coup.
Ça s'est vite essoufflé.
Voilà. Et alors, cette année, ça s'est essoufflé encore plus vite, parce que à peine ils étaient revenus sur le sol français, qu'il y a eu la polémique parce qu'ils ont descendu les Champs-Élysées trop vite en autocar, et puis après il y a eu la polémique parce que à l'Élysée ils sont restés trop longtemps et qu'on les a pas vus assez, puis après il y a eu la polémique parce qu'on n'arrivait pas à trouver les t-shirts avec les deux étoiles des champions du monde. Enfin bref, et puis
on est grognon finalement.
Et, voilà, puis là-dessus l'affaire Alexandre Benalla est arrivée et hop on est passé à autre chose quoi. Et on a un peu oublié vite ce moment qui était quand même un moment qu'on aurait pu goûter un petit peu plus.
Hervé Gocho, vous travaillez au service économie et sociale de France Télévisions.
Vous avez
vraiment une fibre sportive parce que je vous ai également demandé à tous les quatre votre coup de cœur de ces dernières semaines. Et vous, il est également sportif. C'est
un exploit, j'en
dis pas plus.
Voilà, oui. Moi, mon coup de cœur, c'est pour une dame, hein, une dame qui s'appelle Irene Oshii. Qui a 102 ans, qui est australienne et qui, il y a quelques jours, a fait un saut en parachute de 4000 mètres d'altitude donc dans le sud de l'Australie. Et elle a fait ainsi un record mondial. Mais en plus de ça, c'était pour une bonne cause, c'était pour une association qui lutte contre la maladie de Charcot, dont sa fille était décédée. C'est en fait, depuis qu'elle a 100 ans, elle a décidé qu'elle allait faire un saut en parachute chaque année. Donc, c'était
elle
son troisième saut en parachute.
Espérons-le.
Voilà.
Bon. Fabien Tasté, vous tirez votre chapeau à des personnes que vous connaissez bien en tant que président de l'association.
Ça vous étonnera pas trop. Je vais vous parler des fonctionnaires. Eux, ils font l'actualité du 1er janvier au 31 décembre, puisque, ils sont tous les jours sur le terrain à répondre notamment aux nombreuses crises que traverse le pays quand il y a des crises climatiques, les inondations, les crues, le gel. La canicule, quand il y a des crises sociales, notamment les fonctionnaires de police. Voilà, et je voudrais leur rendre hommage. Ce pays compte 5 millions de fonctionnaires, il en a besoin, et j'en parle aussi parce que vous savez qu'il y a une réforme de la fonction publique qui arrive, un projet de loi qui va être déposé au premier trimestre par le gouvernement. Et c'est un moment important où ce pays devra, à mon avis, confirmer son attachement à une fonction publique digne de ce nom, tout en évidemment procédant aux réformes nécessaires. Mais voilà, on a besoin des fonctionnaires et il faudra que cette loi garantisse leur pérennité.
Il peut être malmené par les restrictions budgétaires, en tout cas. Isabelle de Gaulmin, vous, votre coup de cœur, c'est un hommage à quelqu'un qui nous a quittés vendredi. Je vous laisse là aussi le présenter.
Oui, alors lui aussi, il était âgé, il avait 108 ans. Georges Loinger, qui
est
un... Pas de parachute. parachute, mais ça a été un grand résistant, c'est une très belle figure de la France politique de la guerre et de l'après-guerre. C'est un juif strasbourgeois qui, pendant la guerre, a sauvé 450 enfants en juifs, en mettant en place toute une filière qui a été extrêmement efficace, qui a toujours eu un regard très positif sur ce que la France avait fait aussi pour les juifs. Il y avait cette phrase, il y avait tous ces Français issus des écoles républicaines pour qui liberté, égalité, fraternité n'étaient pas des mots creux. Et puis c'est aussi quelqu'un qui a, après la guerre, était membre d'une fraternité, la Fraternité d'Abraham, qui a été la première association qui a permis de regrouper côte à côte des juifs, des musulmans et des chrétiens pour justement essayer de bâtir la paix. Donc voilà, c'est une grande figure qu'on a perdue et qui dit beaucoup de ce qu'a été là aussi la France dans les années 50.
Et au passage, un beau portrait sur le site internet de La Croix. Ses obsèques, ce sera demain au cimetière du Montparnasse à Paris. Patricia Chaplotte, vous avez choisi quelqu'un qui a déjà eu un honneur très très prestigieux cette année. C'est l'un des deux lauréats du prix Nobel de la paix, le docteur Denis Mukwege. Vous rappelez qui il est exactement ?
Alors, Denis Mukwege est un médecin gynécologue qui est né en République démocratique du Congo et on l'appelle l'homme qui répare les femmes. Denis Mukwege lutte contre les droits des femmes, notamment dans son pays, mais pas que, puisqu'il faut savoir que les femmes et les enfants très 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 jeunes sont violés dans ce pays en état de guerre et sont violés dans des conditions absolument abominables qu'il est difficile d'en parler, on viole des bébés. Et donc lui répare, comme il dit, ces femmes qui ont été agressées et essaie de faire en sorte qu'elles puissent vivre parce qu'elles sont violées sur la place publique, devant les familles. Elles sont, c'est dans des conditions absolument abominables. Et quand j'ai remis le prix de la femme d'influence cette année, j'avais décidé de remettre le prix à un homme. Voilà, et on a fait travailler un institut et c'est lui qui est arrivé en premier. On lui a remis le prix à un de ses émissaires. On espère bien une délégation de femmes aller le rencontrer bientôt
et
sur le terrain.
Il a partagé son prix Nobel avec la militante yézidine Nadia Mourad.
C'est un homme exceptionnel.
Mais voilà. Je n'en doute pas. Merci Isabelle de Golemin du journal La Croix, Hervé Gocho de France Télévisions, Service Économie et Sociale, Fabien Tasté, l'Association des administrateurs territoriaux de France et Patricia Chaplotte que nous venons d'entendre, présidente d'Albera Conseil du club Génération Femmes d'Influence. Merci pour cette nouvelle heure des informés qui s'achève.